11h04, vous êtes dans Trudeau-Landry pour nous joindre. C'est le 25-226 via texto. Dans les dernières minutes, le bilan quotidien de la COVID qui a été rendu public. Donc, pour les dernières heures, c'est 2519 nouveaux cas de COVID qui ont été répertoriés. 74 décès supplémentaires, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, parce qu'on les... On les cherche, les bonnes nouvelles, mais il y en a une relative bonne nouvelle, c'est-à-dire que il y a 13 hospitalisations en moins. Donc, oui, il y a des gens peut-être qui sont entrés à l'hôpital, mais il y en a plus qui sont sortis, ce qui fait qu'on se retrouve avec moins 13 personnes.
Pour aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle.
Pour aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour ça. Mais effectivement, Jonathan, on va attendre de voir s'il y a une tendance là-dessus. Très, très content de vous présenter notre prochaine invitée. En fait, elle n'a pas besoin de présentation. Je suis très, très heureux de la retrouver. Je suis très convaincu que vous allez être très heureux aussi de l'entendre à nouveau parce que c'est une habituée de plusieurs stations sur lesquelles l'émission Trudeau-Landry est entendue. Elle est animatrice, chroniqueur, enseignante également. Très heureux de retrouver Myriam Segal à qui on va parler régulièrement au cours des prochaines semaines. Bonjour Myriam!
Allô, et retraité, oublie pas que je suis retraité.
Ben oui, mais je voulais pas, je suis pas capable, ça me rentre pas dans la tête que t'es retraité. Ça me rentre pas dans la tête, ça se peut pas, t'es pas retraité. Mais je comprends que tu...
Non, écoute, la COVID me sort de ma retraite, me veut pas, là.
Ouais, ben oui.
J'ai comme pas le choix, j'ai pris ma retraite pour voyager.
Oui, ben c'est ça, je me rappelle, puis exactement ça, puis j'ai le goût de te demander justement comment ça va, parce que moi je te suis sur Facebook, Myriam, puis on voyait... Dans les derniers mois, avant la pandémie, bon, ton périple aux États-Unis, ton voyage et tout ça, fait que t'occupes ton temps comment depuis la pandémie? Comment ça va?
Ah ben là, ça va bien. Je me suis réinstallée. T'sais, moi, j'avais tout vendu. J'habitais dans une chambre pour être capable de partir avec ma petite roulotte puis avoir tous mes sous pour faire mon voyage, ma grande virée de 6 mois aux États-Unis, qui devait être suivie par le chemin de Compostelle en Europe, etc. Puis tout ça, au bout de 3 mois, pouf! Ça s'est scrappé, fait que je suis revenue à Québec. Je me suis racheté un petit condo. Puis je mène la vie passive et tranquille d'à peu près tous ceux qui subissent la COVID, là.
Myriam, premièrement, enchanté. C'est la première fois qu'on se parle. Évidemment, je te suis depuis des années dans les médias, mais on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble. Donc, très content d'avoir la chance de le faire. Puis, je suis curieux, avant qu'on parle de tes sujets, de savoir à quel point, quand on se retire un peu, là, on prend un petit pas de recul, comme tu l'as fait dans les derniers mois, y a-tu une désintox à faire, là? Moi, j'ai eu une désintox à faire à l'époque de la politique, là, de donner son opinion, de regarder ce qui se passe dans les médias, puis se dire, hey, ça, j'aurais envie de dire ça, dire ça. Ça nous gruge-tu un peu par l'intérieur?
Ben oui, mais sauf que la formule que j'avais choisie pour me désintoxiquer était une formule idéale. Je partais, je n'avais plus aucun point de repère, je ne lisais plus les journaux de façon aussi assidue. Vous le savez, les gars, on passe au moins une heure et demie quand on est dans ce métier-là, à se mettre en mode input, puis à ramasser toutes les informations qu'on est capable de ramasser tous les matins, là. Fait que, ça, je ne le vivais plus. J'étais dans des paysages extraordinaires. Les dégénérés d'Américains, là, je vais vous dire quelque chose, ils ont au moins un siècle d'avance sur nous autres pour ce qui est de l'accessibilité à leur richesse naturelle.
Les parcs, ces choses-là, oui.
Oui, regarde, les parcs, la protection des berges, c'est absolument phénoménal quand on fait une petite virée. Par exemple, en Oregon, toute la rive est un immense parc régional.
Ouais.
C'est un immense parc d'État parce qu'ils ont confisqué systématiquement tous les terrains en bordure de mer. Ils ont vraiment réussi à protéger pour le bien du public leur richesse naturelle, leur beauté naturelle. Et ils font ça depuis plus d'un siècle. Ça fait que, outre les 3-4 excités qu'on a vus hier, là, les États-Unis, c'est un pays hautement civilisé.
Très d'accord avec toi. Ceux qui parlent de la chute des États-Unis, là, avec ce qui s'est passé hier, je peux pas être plus en désaccord que ça. C'est peut-être la chute du Trumpisme, mais les États-Unis, encore, c'est plus que Trump et les Trumpistes. Là.
Ah, écoute, je vous le dis, là, moi, quand je suis une fan de randonnée pédestre, etc., même si je suis pas une athlète, là, mais c'est clair qu'on a, nous, raté des choses que les Américains ont pas ratées. Quand je vais voir un parc national aux États-Unis, que je paye 20$ pour une entrée de 7 jours dans une des beautés naturelles les plus spectaculaires au monde, puis que ici, pour avoir le droit d'aller marcher 2 heures, je paye 9$.
Ouais.
Tu comprends-tu que l'accessibilité pour les familles est infiniment supérieure là-bas?
Exact.
Alors, ils ont, tu sais, ils ont des aspects de leur organisation sociale où ils sont plus socialistes que nous autres.
C'est vrai, dans plusieurs États, t'as raison. Myriam, on parlait dans les dernières minutes justement, bon, de la hausse des cas dans le temps des fêtes et bon, du couvre-feu aussi qui a été annoncé hier. On a l'impression que ça sert peut-être à contrôler les petits parties clandestins de fin de soirée. Et tu voulais justement nous parler ce midi de la culture de la petite délinquance.
Ouais, je trouve qu'on est dans la COVID victime de la culture de la petite délinquance qu'on a au Québec et que Jonathan vient d'illustrer de façon extraordinaire en parlant de ce qu'il fait avec son fils.
Oui, exact.
OK, la loi au Québec, c'est pas toujours la loi. La loi au Québec, ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est qu'on peut toujours la contourner puis tricher un peu. La loi au Québec, quand nos enfants nous regardent conduire nos voitures, puis qu'ils voient que sur le bord de l'autoroute, c'est glissant, puis qu'on roule à 38, c'est la loi au Québec, on peut toujours la violer un peu. C'est ça qu'on enseigne à nos enfants par ce que moi j'appelle la culture de la petite délinquance, dont le gouvernement est largement responsable. Parce que si sur le bord de l'autoroute, il y avait des limites de vitesse respectables, on tricherait pas. Puis donc, chaque fois qu'on triche un peu, le gouvernement essaye d'en faire un petit peu plus, puis on est pris dans une espèce de cercle vicieux où les lois deviennent de plus en plus sévères parce que, dans le fond, on les respecte pas, puis on les respecte pas parce qu'elles sont pas respectables.
C'est comme, Myriam, si dans nos lois, on avait tendance à utiliser le même réflexe qu'en négociation, c'est-à-dire que tu vas jamais donner ta vraie limite. T'sais, tu vas faire une offre salariale, mais en t'en gardant un petit peu. Mais on fait nos lois comme ça. On va mettre la vitesse à 100 en se disant qu'on va tolérer jusqu'à 120. Non, donnez-nous l'heure juste. Mais c'est devenu une culture. On va toujours un petit peu plus loin que ce qui nous est demandé de faire, dans le fond.
Oui, puis là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais l'hiver, écoute, il y a des pays, moi j'ai vu ça aux États-Unis beaucoup, j'ai vu ça en Europe aussi, il y a des pays où il y a une limite de vitesse de jour, une limite de vitesse de nuit.
Ouais.
Il y a des pays où il y a une limite de vitesse quand il pleut, puis une autre limite de vitesse quand il fait beau. Puis ils n'ont pas besoin d'affichage, puis de patente électronique programmable avec un gouffre informatique qui vient avec. Puis, simple panneau sur le bord du chemin, puis les gens respectent ça. Si ta limite de vitesse est à 120, les gens vont la respecter sans problème, puis à 121, t'as une contravention. Le problème que j'ai avec notamment les limites de vitesse, mais on a le même phénomène, les zones de travaux. Dans les zones de travaux au Québec, même quand il n'y a pas un maudit travailleur, qui arrive généralement le vendredi, samedi, dimanche, même quand il n'y a pas un maudit travailleur, on maintient des limites de vitesse qui ne sont pas raisonnables. Alors, le résultat, c'est que quand on rentre dans les zones de travaux, on fait pas trop attention.
On les respecte pas.
Aux États-Unis, tu as une limite de vitesse extrêmement sévère quand les travailleurs sont là.
Si on transpose ça à la pandémie puis à la COVID, Myriam, parce que, tu sais, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Le gouvernement a essayé des choses. Il y a eu le défi 28 jours. Après ça, il y a eu Noël, vous avez le droit à tant de soirées avec tant de personnes. Là, finalement, c'est plus ça. Là, on prolonge jusqu'au 8 février, couvre-feu. On s'aperçoit finalement aussi que ce qu'on nous a annoncé hier, finalement, il n'y a pas énormément de différence par rapport à la semaine dernière. Là, c'est la suite du confinement. Est-ce qu'on aurait dû être plus sévère, plus clair, rapidement, à ton avis, Myriam?
Ben, c'est parce qu'on est victime de ce que j'appelle la culture de la petite délinquance. C'est le fait qu'on triche sur l'impôt, puis c'est correct, le fait qu'on paye le cash, le fait que quand tu achètes un char usagé, tu déclares pas la valeur réelle que tu payes. Ouais. On triche, dans nos vies quotidiennes, on triche tout le temps avec le gouvernement.
Mais c'est parce qu'il y a trop de règles aussi. Moi, j'aime pas les règles. Moi, j'aime mieux, j'ai tendance, Myriam, à me fier au gros bon sens. Mes collègues me disent que je devrais pas des fois. Mais est-ce que trop de règles, des fois, tue pas les règles aussi et occasionne ça?
Exact.
Ouais.
Exact. Puis c'est dans ce cercle vicieux-là qu'on se trouve et qu'on paye très cher pour la COVID. Parce que, honnêtement, là, le couvre-feu à 8 heures le soir, c'est pas une mesure, c'est un message. C'est pas une vraie mesure. D'ailleurs, ils vont rien faire pour l'appliquer particulièrement. Alors, en quoi est-ce que d'empêcher un marcheur solitaire d'aller prendre sa marche à 8 heures le soir va protéger le public? Zéro pin barre. Sauf qu'ils ont besoin de passer un message. Hey, dans le fond, ce qu'ils nous disent, je vous en supplie, respectez les règles qu'on a mises et qui sont sérieuses. Les pas sérieuses, on va s'organiser avec. Mais on est encore une fois, à cause de la culture de la petite délinquance qu'on cultive depuis des années, des dizaines d'années au Québec, on est encore une fois à se dire, ouais, il nous demande ça, mais dans le fond, ce qu'il veut, c'est ça.
Mais c'est intéressant ce concept-là de la culture de la petite délinquance. Mais si j'essaie, Myriam, si on essaie ensemble de voir ça vient d'où ça, j'ai l'impression que c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que le gouvernement est pas assez sévère, donc les gens vont toujours aller un petit peu plus loin, ou le gouvernement est pas assez sévère parce qu'au Québec, on a de la misère avec ça, là, tu sais, se faire dire quoi faire, puis hey, c'est pas vrai que vous venez me dire, alors que dans d'autres pays, ça marche ou pas.
Je sais pas, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'on est un peuple de vaincus qui a besoin, qui a dû sa survivance au fait de tricher un peu?
Ouais.
Est-ce que ça va aussi loin que ça? Je suis pas sûre. Je suis pas certaine de ça. Moi, je pense que on est dans un cercle vicieux et je sais pas comment le rompre. Moi, je rêve du jour où il va y avoir un ministre des Transports qui va dire, regarde, je vais vous mettre des vraies limites de vitesse sur le bord du chemin, là, mais à 2 kilomètres de plus,
c'est ça.
Bang!
Un vrai 120.
Bon,
un vrai 120.
Tu sais, il faut, à un moment donné, il va falloir casser le cercle vicieux. Mais ce cercle vicieux-là, on paye très cher pour ça dans le monde de la COVID. Parce que le virus, là, il se gêne pas. Mm-hmm. Comprends-tu? Le virus, il continue à se transmettre. Je me dis, ouais, le gouvernement, il dit ça, mais dans le fond, il accepte ça. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je ne vis pas avec mon conjoint. On se voit 2 semaines par mois, à peu près. Mais là, je n'arrive pas à savoir, dans le fouillis innommable des décrets, est-ce que j'ai le droit d'aller le voir?
Ouais. Est-ce que oui, j'ai mais tu n'as pas le droit de repartir passer 20 heures, par exemple. Faut pas que tu te chicanes avant 20 heures et tu veux y revenir chez vous.
C'est pas sûr, Jonathan, parce que il y a quelques semaines, Radio-Canada a démontré qu'il n'avait pas changé le premier décret qui interdisait aux gens de se visiter. Alors, c'est toléré, mais c'est interdit.
Officiellement, oui, c'est ça.
Comprends-tu? On est tout le temps au Québec dans un manque de clarté. Et le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est le décret. Je vous mets au défi, aujourd'hui, d'aller lire le décret et d'y comprendre quelque chose. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont émis un décret et ensuite, ils ont, par décret, corrigé le décret. Ça fait que là, t'es rendu avec une 50aine de corrections, mais pour comprendre ce qu'ils corrigent, il faut que tu ailles lire les 50 documents avant.
Ouais. Ouais.
Okay? Un juriste s'y retrouve de justesse. Alors, s'ils veulent qu'on connaisse les règles, le minimum serait bien qu'ils les émettent clairement.
Exactement. Hey, parlons des voyages avant de te laisser aller, Myriam, parce que bon, ça a fait jaser beaucoup dans le temps des fêtes, là, puis ça fait encore réagir. Il y a des élus qui ont été pris la main dans le sac aussi, Pierre Arquin, etc. Comment tu vois ça, toi?
Moi, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup dans les commentaires qu'on a entendus sur les voyageurs, il y a beaucoup de jalousie. Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont les moyens de voyager, bien qu'ils payent.
Ouais.
OK? Il faut comprendre que le 1 000 $ du fédéral, moi, il me scandalisait pas. Il me frustrait, là. Mais comme le système carcéral au complet me frustre. OK? Le 1 000 $ du fédéral, ça vise essentiellement à empêcher que des gens retournent travailler trop vite sans savoir s'ils sont infectés ou pas. Parce qu'ils risquent de manquer d'argent. Le 1 000 $ du fédéral, fallait le voir comme on voit le système carcéral. Le système carcéral, on paye très cher, on traite très bien des vermines sociales qu'on enferme à fort coût, qu'on traite mieux que nos personnes âgées en CHSLD, parce qu'on veut protéger la société. Alors, le 1 000 $ du fédéral, là, ça servait essentiellement à me protéger, moi, contre les imbéciles qui, revenant de voyage, étaient prêts à retourner travailler tout de suite.
Ça, t'as raison, Myriam, mais en même temps, au-delà de ça, puis au-delà des règles et de l'histoire du 1 000 $, là, est-ce que c'était vraiment une décision intelligente? Au-delà de la jalousie aussi, là, parce que moi, j'ai critiqué les gens qui ont pris cette décision-là d'aller en voyage, Myriam, là, puis sincèrement, je pense pas être jaloux, là, j'en fais des voyages, puis bon, j'aurais aimé ça y aller cette année, mais moi, je trouve que c'est pas une bonne décision, parce que c'est de prendre des risques inutiles aussi.
Oui, c'est de prendre des risques inutiles, ça dépend de ta situation. Mmh. Moi, je connais des gens qui, s'ils n'avaient pas pu se greffer à une bulle dans le temps des fêtes, seraient partis en voyage parce que pour eux autres, c'était salutaire. On ne connaît pas la situation mentale des gens. On ne connaît pas leur situation humaine. On ne connaît pas leur situation sociale. Moi, le jugement tous azimuts, les voyageurs sont des touristes patins, là, j'ai bien de la misère avec ça. Mm-hmm. Tu vois, je connais quelqu'un qui fait du télétravail depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, il est célibataire, il ne voit personne. S'il n'avait pas été invité dans une bulle familiale, pour sa santé mentale, il fallait qu'il sorte de chez eux à Noël, comprends-tu?
Oui.
Alors, les jugements tous azimuts, là, j'ai bien de la misère. Par contre, si on permet les voyages, il faut aussi s'assurer que la quarantaine va être suivie. Mmh. Et là, les gars, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a vraiment quelque chose que je comprends pas. Actuellement, on paye la police du tabac. Pensez-vous qu'ils surveillent beaucoup de gens qui fument à 9 mètres du...
Non, c'est dur à piquer. Hein.
Bon. Actuellement, on paye des inspecteurs du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Pensez-vous qu'ils surveillent beaucoup de restaurants?
Non.
Ouais, mais on parle de juridiction fédérale versus provinciale. Puis là, essaye de voir le provincial qui prêterait du staff au fédéral. Ah, oh, bah boy, on n'est pas avec
eux. Ben écoute, s'ils sont pas foutus de faire ça en période de pandémie, veux-tu bien me dire quand est-ce qu'on va être capable d'orchestrer les choses? J'ai appelé au syndicat des fonctionnaires provinciaux. Puis je leur ai demandé, est-ce qu'on a pris les inspecteurs pour vérifier les quarantaines? Les inspecteurs qu'on paye de toute façon à pas travailler, à rien inspecter de ce temps-ci, est-ce qu'on aurait le droit, puis est-ce que le syndicat aurait une objection? Réponse du syndicat des fonctionnaires provinciaux, oui, le gouvernement aurait parfaitement le droit de les assigner à une autre tâche d'inspection. Comme syndicat, ce qu'on demanderait, c'est qu'ils aient des équipements de protection pour pas être infectés. Donc, il y a là tout un staff qu'on paye déjà, qu'on pourrait utiliser si le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sautaient les mains de leur poche.
Ils sont trop occupés,
surveiller les quarantaines de façon efficace. Au Nouveau-Brunswick, là, ils ont pris les agents de la faune, puis ce sont les agents de la faune qui surveillent les quarantaines.
Mais en même temps, on ne pourra jamais surveiller tout le monde. Puis moi, ce qui m'a frappé dans le temps
des
fêtes...
Il faut que le délinquant ait la moindre chance d'être pris, comprends-tu?
Oui, c'est ça. Faut se donner des chances, c'est ça, de les prendre et de les surveiller. Mais moi, il reste quand même que dans le reportage, le fameux reportage de Québécois qui a tellement fait parler Myriam, là. Moi, quand j'ai vu les cochons qui se lavent pas les mains au buffet, là, moi, je me suis dit, tu te laves pas les mains au buffet, là, j'ai des gros doutes sur le respect de la quarantaine aussi.
Ben oui, mais penses-tu que ces gens-là auraient respecté quoi que ce soit ici aussi?
Ben non, effectivement.
Ben, des délinquants totaux, tu vas en avoir tout le temps. Il faut les endiguer de la même manière qu'on le fait pour les criminels. Les criminels, là, c'est pas parce que t'es un qui sont dans des prisons qui te coûtent 100$ par jour par prisonnier. C'est parce que tu veux te protéger contre eux. Alors, il faut payer pour se protéger contre ces gens-là. Ouais. Et tant que le fédéral saute pas les doigts dans le nez puis continue à autoriser les voyages, ben il faut s'assurer que les quarantaines sont respectées. Et tu vois, hier, je parlais avec des fonctionnaires et ils ont eu exactement ton réflexe, Jonathan. On dit, oh mon Dieu, des informations fédérales qu'on va passer au provincial, quelle horreur, ça marchera pas. Hey,
alors,
on
moi,
est
je voudrais que ça marche,
guerre.
Je suis juste lucide, là.
Pardon?
Je dis, je voudrais que ça marche, mais je suis juste lucide. Je regarde les deux premiers ministres qui chicanent ces vaccins puis qui font de la politique au lieu de faire la santé publique, puis je me dis, ouf, on n'est pas avec de se prêter des employés, là.
Non, mais comprends-tu qu'on est dans une guerre totale, une pandémie jamais vue dans l'ère moderne du mondial, puis ces deux tatas-là sont pas capables d'utiliser les gens qu'on paye de toute manière là où ils seraient utiles. Excuse-moi, là, mais c'est difficile de les respecter.
Ouais, écoute, on n'a plus de temps, Myriam, mais on pourrait parler aussi de la vaccination d'un pharmacie. On devrait.
On va pour le faire la prochaine semaine, d'après.
On va se reprendre.
La pharmacienne qui est juste en bas de la station, là.
Oui.
Quand j'étais me faire vacciner pour le vaccin de la grippe, elle m'a dit qu'ils avaient acheté une machine de désinfection ultra rapide, qu'ils étaient prêts au centre de loisirs de Saint-Sacrement à vacciner 200 personnes à la fois.
C'est ça. Hey, on en reparle, Myriam. Merci beaucoup.
Salut.
Les gens sont très contents de te réentendre. Merci beaucoup, Myriam.
Merci.
Myriam Segal, animatrice, chroniqueur, enseignante. Elle dit qu'elle est retraitée, mais non, moi, dans ma tête, Myriam n'est pas retraitée. Elle est encore très, très, très active. Beaucoup de choses. Écoute, on faut s'arrêter, là, mais sur la vaccination, entre autres, aujourd'hui, on nous a parlé ce matin d'un record. Je pense que le gouvernement sent la pression monter là-dessus,
ben oui.
Là, avec la poursuite du confinement. le couvre-feu. Je pense que le gouvernement a compris que les gens veulent être vaccinés en échange. Là, on nous rapportait ce matin un record hier. 10 000 Québécois qui ont été vaccinés en 24 heures hier au Québec.
Et Jérôme, avant la pause, oui. Je vais te rendre heureux. Patrice Bergeron vient d'être confirmé capitaine des Bleus.
Ah oui! Ah ben, parfait ça.
Enfin,
quelle bonne,
bonne
nouvelle
pour Jérôme.
Fierté de la région de Québec, Patrice Bergeron. C'est pas une énorme surprise, mais quand même, on est très, très, très content de ça. Bravo Patrice, 11h24, on vit.
Trudeau Landry. On prend un break? On vient dans quelques minutes.